Septième cours de Shirashirim par Raveman, le lundi 17 juin 1996, au cercle du Frénois.
Il n'y a que cinq mots. Seulement, c'est le plus important de Shirashirim. On va essayer de savoir pourquoi. Parce que vous savez qu'il est écrit dans la Lacha, donc Shulchan Aruch, que à chaque fête correspond une Megillah. C'est pour ça qu'on lit à Shavuot la Megillah de Ruth, on lit à Sukkot la Megillah de Kohelet, et à Pessah on lit la Megillah qui s'appelle Shir HaShirim. Et je crois, on cite le Midrash où il est marqué qu'à Pessah on doit lire la Megillah de Shir HaShirim à cause de ce verset-là. Alors on va voir quel est le rapport et comment ça s'articule. Le Sousati de Rikve Paro. Alors on va aller d'abord regarder les mots. Le Sousati. Sousati, ça vient du mot Sous. Lorsqu'on dit Sousa, ça veut dire une multitude de chevaux. Chaque fois qu'on engage une force dans une bataille, on appelle ça Sousa. Ça que Rashi traduit, le Sousati, les forces que j'ai engagées dans la bataille. Il y a un lamed d'abord, le. Ce lamed, ça veut dire le Sousati. C'est à l'occasion de Sousati. Donc on va traduire, à l'occasion des forces que j'ai engagées, de Rikve Paro contre les chars de Pharaon, Dimitir, on va prendre la première traduction qui est celle de Rashi, il dit Shetaktir, du mot domé, douma ou domem, qui veut dire faire taire. Je t'ai fait taire, Rayati m'accompagne. Donc on va recommencer. Le Sousati Berich Reparo, à l'occasion des forces que j'ai engagées à l'encontre de Pharaon au moment de la sortie d'Égypte, Dimitir, je t'ai calmé, je t'ai fait taire, on va voir. Rayati m'accompagne. C'est Dieu qui s'adresse au peuple d'Israël. Alors on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire. Rashi explique qu'au moment de la traversée de la mer Rouge, Rashi ne fait que citer le Midrash. Le peuple juif avait peur, à implorer à Kadosh Baruch Hu de le sortir de l'impasse, puisque il y avait d'un côté l'Égypte, de l'autre côté le désert, troisième côté la mer. Il ne savait plus vers où aller. Alors à ce moment-là, la mer s'est fendue et la bataille a été engagée de cette façon-là contre Pharaon, qui s'est perdu dans la mer. Au moment où le peuple juif est arrivé à cette mer rouge, il a imploré à Kadosh Baruch Hu. Mais il est écrit un verset bizarre dans la Torah. Il est marqué Hashem Yilachem Lachem. Mot à mot, Hashem Yilachem Lachem. Dieu fera la guerre pour vous. Ve'atem et vous, Tacharishun, taisez-vous. Le Midrash explique, il est très connu ce Midrash, nous on l'a expliqué une fois à partir d'un autre verset. On va essayer d'expliquer d'abord à partir d'un autre verset. Vous savez que dans le Hallel, nous disons un psaume qui commence et qui dit « Ahavti Hashem, Ki yishma koli tachanunai. Ki ita oznoli. On va traduire. Avti, c'est le roi David qui parle. Il dit, voilà ce que j'aime. Ki yishma Hashem koli tachanunai, lorsque Hashem écoute ma prière. Ki ita ozenli, parce qu'il a tendu l'oreille vers moi. Les commentateurs demandent, c'est le contraire qu'il fallait marquer. Il a d'abord tendu l'oreille, et ensuite il a écouté la prière. Mais pas, il a écouté la prière, et il a tendu l'oreille vers moi. Kita Oznoli, c'est la fin du verset. C'est plutôt le début du verset d'après. Kita Oznoli, il a tendu l'oreille vers moi, c'est avant d'écouter la prière. Parce que d'abord on peut tendre l'oreille, mais ne pas écouter la prière. Et en plus, on ne tend pas l'oreille après avoir écouté la prière. La réponse, elle est très simple. C'est que l'important dans la prière, ça n'est pas que Dieu écoute et que ce soit exaucé, c'est qu'il tende l'oreille. C'est ça qui est important. On va essayer de montrer un exemple. L'exemple, c'est ce dont on a parlé au moment de la sortie d'Égypte. Le peuple juif arrive devant une impossibilité de s'en sortir. Devant le Midrash, pourquoi est-ce que Dieu a fait une chose pareille? Il a sorti les Juifs d'Israël, d'Égypte, pour les amener en Eretz Israël. Il avait bien un plan. Pourquoi les mettre dans cette situation? Dit le Midrash, c'est très simple. Il dit, c'est parce que Dieu avait envie d'entendre la voix du peuple d'Israël. Il aurait très bien pu les amener à la mer Rouge et que la mer Rouge se fende immédiatement. Mais il voulait que le peuple juif prie et que lui puisse répondre. Hachem ilachem lachem, ne vous en faites pas, c'est Dieu qui fera la guerre. Vatem tacharishun, ça y est, maintenant, on ne vous demande plus rien. C'est-à-dire, taisez-vous. Sous-entendu, j'ai entendu ce que je voulais entendre, maintenant taisez-vous, ça suffit. Ça veut dire que ce n'est pas la prière qui est une réaction à l'événement. Mais c'est l'événement qui est là pour susciter la prière. Alors on se pose une question. Un événement pour susciter la prière, ça veut dire quoi? La réponse, elle est dans ce verset qu'a dit David Ameler dans les Tehillim. L'essentiel de la prière, c'est pas que je demande quelque chose et que le bon Dieu me réponde ou me réponde pas. Que ce que je veux, finalement je l'aurai, de telle façon ou pas de telle façon. L'essentiel que j'ai à qui m'adresser. C'est-à-dire que ce rapport qui est instauré entre Dieu et l'homme, c'est un rapport nécessaire. C'est ça l'institution de la prière. Il est possible que sans prier, j'aurai exactement la même chose. Il est possible que ce que Dieu a prévu, de toute façon, ma prière ne changera rien. Il est même possible qu'après qu'on ait institutionnalisé la prière, que ça existe, que c'est un moyen de communication avec Dieu, alors ça dépend de la prière. Mais j'aurai toujours la question, pourquoi faire ça par la prière? La réponse, elle est là. C'est qu'un homme doit comprendre que Dieu peut l'écouter. Un homme ne doit pas voir Dieu comme quelqu'un qui est au-dessus de lui, qui le juge à chaque instant et qui agit vis-à-vis de lui exactement comme lui l'agit. Il y a un moyen d'intervention. C'est ça ce qu'a dit David Meller, Kita Oznoli. C'est ça ce que Dieu voulait faire comprendre au peuple d'Israël. T'as un problème? Il y a deux façons. Ou tu pleures, ou tu réagis, ou tu pries. Ce que Akadosh Baruch Hu voulait voir, voulait entendre, c'est la prière. Ça veut dire que il peut m'arriver des événements dans ma vie où tant que je ne prierai pas, je n'aurai rien, parce que le but de Dieu vis-à-vis de moi par l'intermédiaire de cet événement, c'est d'obtenir une prière, pas plus. C'est comme ça qu'on fonde cette institution qui s'appelle la prière. Là est le fondement. Maintenant, c'est pas toujours comme ça. Puisque maintenant, quitte à Osnoli, j'ai à qui parler, alors il est possible que quelquefois quand je demande ça marche, et justement si je demande pas, ça marchera pas. Il est possible que ce soit le contraire maintenant. L'institution est là. À quoi elle sert? Elle va servir à tout. Il y a peut-être des choses qui ne passeront plus que par la prière. Mais la raison de l'institution, c'est celle-ci. C'est-à-dire au fond, chacun se demande pourquoi est-ce que la Torah demande de prier? Mon Dieu, il sait à qui il a affaire. Et là, on va entrer dans un débat qui est le problème de Mida Keneged Mida. Vous savez que la Gemara, dans différents endroits, insiste sur le fait que Dieu réagit avec l'homme de la façon dont l'homme réagit lui-même. Une fois qu'on a ce principe, et que ce principe nous semble juste, parce que nous-mêmes vis-à-vis des hommes, on réagit comme ça. Tu es sympathique avec moi, je suis sympathique avec toi. Tu es méchant avec moi, je suis méchant avec toi. On trouve ça dans l'ordre des choses, donc on trouve ça naturel, que la relation de Dieu avec l'homme passe par un rapport qui est celui-ci. J'attends pas de Dieu qu'il me donne quelque chose que je ne mérite pas. Je n'attends pas de Dieu qu'il ne me donne pas quelque chose que je mérite. Donc ce principe de Mida Keneged Mida, mesure contre mesure, c'est-à-dire que Dieu te juge selon ce que toi tu juges et ce que toi tu estimes, c'est tout à fait normal. À partir de ce moment-là, il y a une question. Alors la prière ne sert plus à rien. Le monde n'a qu'à juger, il se débrouille, il sait qui je suis, comme je suis. Il me donne ce dont j'ai besoin, ce que je mérite, ce que je ne mérite pas, ce qu'il me faut, ce qu'il ne me faut pas. La réponse à cette question, elle est là. C'est qu'il y a un rapport avec Dieu. Il n'y a pas seulement un Mida Keneged Mida, ce n'est pas un face-à-face. On joue aux échecs, tu fais ça, tu fais ça. C'est qu'il y a un rapport. Et ce rapport-là, maintenant, il permet toutes les combinations qui, peut-être, n'ont plus de rapport avec Mida Keneged Mida. On va essayer de voir dans quel cas et pas dans quel cas. Jusqu'à présent, c'est clair. Si vous avez des questions, posez-les au milieu, parce que de les poser à la fin, hein, c'est pas très pratique. Donc, encore une fois, à partir du moment où je comprends que Dieu a voulu, au sortir de l'Égypte, montrer au peuple juif qu'il existe quelque chose qui s'appelle la prière, et que cette prière peut engendrer des réactions, on va mettre en cause un principe, c'est celui de Mida Keneged Mida. Ah, je peux intervenir? Donc la prière ne servirait qu'à ce qui n'est pas juste? Est-ce que la prière ne servirait qu'à ce qui n'est pas mérité? Non, puisque quelquefois, au contraire, l'événement est créé pour la prière. Donc la prière, ça devient une institution. Tu as des problèmes? Adresse-toi à celui qui peut résoudre tes problèmes. Comment est-ce qu'il va juger les choses? Tu verras bien. Voilà la réponse à cette question. Puisque Dieu sait exactement qui je suis, comment je suis, ce dont j'ai besoin, il se passe de ma prière. Il se passe de ta prière. Mais toi, tu ne peux pas te passer de cette relation-là. Et c'est pour ça que cette institution qui est devenue la prière, elle peut même court-circuiter quelquefois Mida Keneged Mida, ou elle peut, au contraire, aller dans ce sens. On va essayer de déterminer exactement quelles sont toutes les incidences. Mais essayons de voir qu'est-ce que c'est que Mida Keneged Mida. Pour ça, il faut reculer très loin. Si on demande... Ouais.
Mida Keneged Mida, c'est quand les choses sont arrêtées. Parce que la prière peut permettre de modifier son comportement.
Donc, le bien? Ou celui de Dieu? Alors, je peux dire, ça c'est déjà un dérivé. Ça c'est déjà un dérivé. Mais quand je m'adresse à Dieu, donne-moi ça, je ne modifie pas mon comportement. À moins que je fasse une condition. Ah, donc, bon, c'est encore... Voilà. Donc, bon, d'accord. Mais, alors, ça peut encore être des résultantes de l'institution. C'est vrai. Voilà, absolument. Absolument. Seulement là-bas, c'est dans le sens d'exiger. Darashti, c'est dans le sens d'exiger. Ça veut dire qu'on a même le droit d'exiger. C'est plus que ça. Darashti ve'anani. Ça veut aussi dire ça, mais Doresh, ça veut dire, hein? Plus que ça. Il est marqué qu'il Doresh Damim. À Kadosh Baruch Hu, il est Doresh Damim. Ça veut dire, hein, je vais jusqu'au fond des choses, j'ai droit à ça. à partir du moment où c'est une institution, on va voir qu'il y a énormément d'applications. On va essayer de voir d'où vient ce Mida Keneged Mida. Pourquoi ? Il est écrit dans le Yalkut Shimoni sur le verset au début de Bereshit, Vayar Elohim, Dieu a vu, Kitov Meod. À partir du moment où l'homme a été créé, on dit Kitov Meod, c'était pas seulement bien, c'était très bien. Il est écrit dans le Yalkut Shimoni à propos de ce verset, sur ce verset Kitov Meod, Mida Keneged Mida Lo Betela. Même si tu vas trouver que tous les comportements divins, on n'arrive plus à les cerner. Ça, c'est une chose qui reste pas toujours. En quoi ça s'insère dans le verset Tov Meod? Tu me racontes un truc, c'est bien. Mais pas à propos du verset Tov Meod. Alors attention. Là, il faut prendre en recul. Vous allez croire que ce n'est pas indispensable, mais vous verrez que c'est indispensable. Quelle est l'idée que l'homme se fait de Dieu? Un enfant vous demande qui est Dieu. On ne peut pas lui dire c'est un monsieur. On ne peut pas lui dire que c'est quelque chose qu'on retrouve dans la nature. Même si on le compare à un esprit, il y a quand même quelque chose qui manque. On est obligé de lui dire que physiquement ou représentativement, c'est rien. C'est pas quelque chose qu'on peut cerner, c'est pas quelque chose qui a des limites. Imaginons quelle est la définition du rien. Ça aussi c'est difficile à définir. La seule définition que j'ai jamais compris, rien, c'est ce que l'aveugle voit lorsqu'il essaie d'ouvrir les yeux. C'est ce que le sourd entend lorsqu'il tend son oreille. C'est ça, rien. Nous, on ne peut pas imaginer le rien autrement que comme ça. Parce que de dire qu'il est noir ou blanc, c'est de nouveau pas rien. Qui c'est qui met dans ce rien un contenu? Est-ce que c'est Dieu ou c'est l'homme? Si vous comprenez bien la question, à partir d'une représentativité de rien, qui a mis un contenu dans ce rien? Il est tellement difficile à cerner qu'on l'appelle Hachem, ça veut dire le nom. On ne peut donner qu'un nom. Mais c'est quoi ce nom? Ça veut dire qu'il n'y a que des définitions, il n'y a que des repères, mais ça reste le rien. Il n'y a jamais le contenant ni le contenu. Ok. Comment est-ce que moi je vais imaginer qui est Dieu? On ne parle plus maintenant, on n'est plus des enfants, on ne cherche même pas physiquement. Mais il faut mettre un contenu dans l'idée. Alors le grand malin va vous dire, eh bien ce rien c'est tout, mais on n'a rien gagné du tout. Parce que le tout non plus n'est pas repérable. Même que c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'imaginer qui est-ce qui est pour nous ordonner, qu'est-ce qui est pour nous cibler, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'on trouve juste. Et on va le mettre dans cette idée de Dieu. On va donner une réponse simple. Lorsque les enfants d'Israël ont vu l'intervention de Dieu sur la mer Rouge, ils ont chanté la Shirat Hayam, le cantique de la mer Rouge, ils ont dit « Zé Keli, voici mon Dieu, va Anveu. » Anveu en hébreu, ça veut dire « je vais le rendre plus beau, je vais le magnifier. » Mais la Gemara dit c'est composé de deux mots. « Ani Veu. Maurachom Afatarachom. » De même que lui a pitié, toi aussi tu dois avoir pitié. « Maurachanon Afatarachanon. » De même que lui, il sait donner, il sait rendre, toi aussi. Toutes les midotes, toutes les qualités que tu dois trouver chez Dieu, essaye de les construire chez toi. C'est ça ce que veut dire Vanvehu. Rendre grand Dieu, ça veut dire trouver en soi la possibilité de lui ressembler. Ok. Mais ça commence par qui? Qui m'a dit que Dieu est Rahou? Qui m'a dit que Dieu est Hanon? C'est moi. Attention. Parce qu'en vérité, si je regarde, c'est une mitzvah de la Torah qui s'appelle Valachta Bidrachav. Tu iras dans les voies d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est quoi la voie d'Akadosh Baruch Hu? C'est toi qui les décides. Il n'y a pas toujours de prophétie. À chaque mitzvah ou à chaque comportement, on n'a pas vu comment Dieu s'est comporté. Une fois au Mont Sinaï, ça y est, c'est tout pour l'humanité. Terminé. Comment je vais, moi, décider que Dieu est Rahum, il est Hanoun? Il a pitié, il est gentil. Alors, c'est très simple. Chaque comportement dont je vais voir qu'il marche, qu'il est juste, qu'il a une justesse, de l'autre côté une justice, je vais l'attribuer à Dieu. C'est la seule démarche possible. Sans révélation. Pas la révélation ici, pas du tout. Parce que c'est pas dans la révélation. Il n'y a pas marqué dans les 10 commandements qu'il faut être Rachum. Il n'y a pas marqué qu'il faut être Hanoun. Il n'y a pas marqué qu'il faut être Ozer d'Alim. C'est pas marqué dans les commandements. Ça, c'est à moi de le trouver. Alors la Gemara, elle me dit, les Chachamim sont venus, ils ont dit Rachum, Hanoun, Erechapaim, Rapreset. Voilà, ça, ça fait partie. Mais c'est pas marqué dans la Torah. Tu sais, tu dois faire comme Dieu parce que Dieu, il est comme ça. C'est à toi de déterminer comment il est. Comment je vais déterminer comment il est? Alors je vais avoir une action simple. Il y a quelqu'un qui a faim. Je lui ai donné à manger. Ça a marché. C'était juste, c'est ce qu'il fallait faire. Ça a été positif. Pour non dire ça a été cadré, ça a été juste. Ça fait partie, ça, de ce que Dieu veut, puisque je le trouve juste. Parce que, laissez, c'est pas, on ne parle pas de ça maintenant.
Mais est-ce que là, on peut
pas... On parle ressembler, c'est pas les épreuves. Ouais.
On peut avoir le risque de dire que dans ces cas-là, chacun peut inventer son vie.
Mais au contraire, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vois qu'il y a une réaction dans l'événement et dans la nature qui marche, dont je pense qu'elle est juste, juste ça veut dire elle cadre. Maintenant vous comprenez, lorsque Dieu a dit Tov Meod, c'est Mida Keneged Mida, ça veut dire que tout ce que je vois qui s'articule, sache que tu dois te comporter comme ça parce que c'est ça la Mida. Lorsque l'on a demandé la Kouchimo, tu me dis Mida Keneged Mida, Dieu se conduit par rapport à toi comme tu te conduis par rapport aux autres ou à lui. Ça, c'est marqué dans Tom Meoud, parce que Tom Meoud veut dire que ça marche. Ça veut dire que si on demandait, t'as fait une chose qui a marché, eh bien, c'est ça le Tom Meoud que Dieu a vu dans la création, puisque ça marchait. Et là, on va voir le comportement différent. Prenez l'exemple de deux juifs. On leur a posé la même question à 20 ou 30 ans d'intervalle. Un, il s'appelait Karl Marx, l'autre s'appelait Albert Einstein. Karl Marx, on lui a demandé, qu'est-ce que vous pensez de Dieu? Il dit, c'est une idée de l'homme. Ça n'existe pas, c'est une idée de l'homme. Ok. C'est pas qu'il avait tort. C'est que ça suffit peut-être pas comme réponse. Albert Einstein nous l'a demandé, qu'est-ce que c'est Dieu? Comment ça marche Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous croyez en Dieu? Il a dit, je vois dans la nature que le Créateur n'a pas joué au dé. Il a dit que ça m'était impossible de le concevoir. C'est-à-dire qu'il a posé deux choses. Il y a un créateur et les choses s'articulent. Parce que si j'arrive à trouver une loi par rapport au mouvement des étoiles, c'est que c'est pas le hasard, parce que le hasard n'aurait pas de raison que deux mouvements s'articulent de la même façon. Donc il a défini la conscience qu'il avait de Dieu par rapport à Tov Meod, par rapport au fait que quoi? Que ça marche. Ça veut dire que les choses s'articulent. C'est ce qu'on appelle nous la justice ou la justesse. Lorsqu'on sent que c'est juste, c'est ça le Tov Meod. Donc attention. Ça veut dire que selon la finesse que j'ai dans la perception des choses de la nature et des événements, je me forge une idée de Dieu. Donc, Karl Marx avait raison que c'est moi qui ai inventé Dieu, c'est bien sûr toi qui as inventé Dieu. Mais tu l'as inventé dans le contenu, pas dans l'idée. l'idée de Dieu, c'est pas comme ça que tu l'as inventée. Elle est la même chez tout le monde. Mais le contenu, chacun le donne. Bien sûr que chacun s'invente son. Il y a des gens qui sont tellement méchants, qui pensent aussi que le bon Dieu est méchant. La preuve, regardez tous les malheurs du monde. On peut s'inventer le Dieu qu'on veut. Sans attention. Il faut que ça marche. Là intervient le principe de Mida Kenegan Mida. Alors là, on va essayer d'expliquer un peu plus. D'où vient le fait que la Torah nous dise « Valarta bidrachav » La Gemara dans le traité de Shabbat, elle dit « Heve domelo » Ressemble au bon Dieu. Alors maintenant, c'est l'entreprise ardue, pourquoi ? Parce que je dois ressembler au bon Dieu que j'ai imaginé. Donc on va dire, c'est évident que tu lui ressembles. Puisque c'est toi qui l'as imaginé. Et tu ne peux pas l'imaginer s'il ne te ressemble pas. Et paradoxalement, on va voir que tout ce qu'on imagine, ça ne ressemble pas du tout. Heve domelo, ressemble-lui. Mais lui, comment tu le sers ? On a dit selon l'idée de justesse ou de justice qu'on a des choses. Mais c'est mon idée. Donc automatiquement, je lui ressemble. Non. C'est que ma ressemblance et la raison que j'ai de la justice et de la justesse, ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Je m'invente un Dieu, pas selon les efforts que je suis capable de faire, selon les idées que je suis capable d'avoir. Et les idées que je suis capable d'avoir et moi, ça n'a aucun rapport. Je peux avoir les meilleures idées du monde et être le pire du monde. Donc on me demande d'avoir l'honnêteté, d'imaginer ce qui est juste dans ce monde, ce qui colle bien, comme il dit Einstein, il n'a pas joué au dé. Donc étudie comment ça marche. Tu vois bien quand quelqu'un a faim, tu lui donnes à manger, ça marche. Tu lui donnes pas à manger, il meurt. Il y a quelque chose qui a cassé. Ça n'a pas marché. C'est pas juste. Tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas. Quelque part, tu te rends compte que c'est pas juste, ça colle pas. Ce qui ne veut pas dire que tu ne vas pas le prendre. Mais l'idée des choses que tu as, c'est une perception. C'est comme l'aveugle ou le sourd. Là, c'est la perception du rien. Je perçois que ce rien, quelque part, il articule les choses exactement. Ça, c'est une perception. C'est pas du tout un comportement. Mais maintenant, on va me donner une autre idée. On va me dire, tu sais, de même que toi, tu dois te comporter comme l'idée que tu as de lui, donc comme lui. De même, lui va se comporter comme toi. Alors là, ça va compliquer les choses. Parce que qui est-ce qui commence ? Il y a un livre qui s'appelle Le Paradis, c'est là qu'il explique ceci au nom du Maharal de Prague. Lorsqu'un homme veut ressembler à un autre, on va prendre un exemple. Reuven et Shimon. Reuven veut ressembler à Shimon. Parce qu'il trouve que ce que Shimon fait, c'est juste. Est-ce que l'idée de ressemblance de Shimon, il l'a reçue de Shimon ? Ou l'idée de ressemblance à Shimon, elle vient de Reuven ? Je recommence. Reuven, prenez X si ça vous est plus facile, veut ressembler à Y. Parce qu'il trouve que ce que Y fait, ça marche, c'est bien. La preuve, tous les juifs font ça, il a ouvert tel visage, je fais le même à côté de lui. Donc je ressemblais. Est-ce que l'idée de ressemblance m'est aussi venue d'Y, moi X qui le copie ? Ou non, ça c'est mon idée, l'idée de ressemblance. L'image, c'est Y. Mais attention, d'où m'est venue cette idée de ressemblance ? C'est sûr qu'elle n'est pas venue de lui. Parce que lui m'a jamais dit « ressemble-moi ». Elle est venue de moi. Ok. Chez l'homme, c'est vrai que l'idée de faire des choses justes, ce qu'on pourrait appeler notre conscience, je pense qu'elle m'est venue de moi-même parce que j'ai vu que ça marchait. C'est mieux de se comporter de telle façon, parce que je pense que c'est juste, plutôt que de se comporter de l'autre façon. Donc l'idée, elle est venue d'une façon pragmatique. J'ai vu que ça marchait. Alors je me dis, ça c'est le bon Dieu, ben j'essaie de ressembler. Mais il y a encore beaucoup pire que ça. C'est que comme je sens confusément que Dieu par rapport à moi n'a aucune raison de me donner ce que je ne mérite pas. Il n'a aucune raison de me faciliter le fait de casser le monde. Il n'a aucune raison de me faciliter le fait que ma vie se passe dans l'injustesse ou l'injustice. Donc je sens confusément que lui se conduit avec moi, mida keneged mida. C'est de là que vient cette idée-là aussi, que moi je me conduise vis-à-vis de lui, mida keneged mida. Ça veut dire que Reuven veut copier Shimon, qui Shimon c'est le bon Dieu. Cette idée elle est venue du bon Dieu, elle n'est pas venue de nous. Parce que même un enfant comprend que s'il fait un sourire, on lui fait un sourire automatiquement. Mais il pleure, on ne va pas lui faire de sourire. Ça il l'a compris de l'autre, parce que l'autre colle toujours, d'une certaine façon, sa réaction par rapport à lui. Et on comprend que c'est juste. On ne comprendrait pas que je viens pleurer chez quelqu'un qui m'éclate de rire en pleine figure. On ne comprend pas. Ça ne rentre pas dans nos critères. On ne comprend pas que lorsque je suis joyeux, l'autre vient et il soit en rabat-joie. On ne comprend pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de justesse là-dedans. Donc maintenant, on va arriver à une notion qui a l'air complexe, mais qui est très simple. J'attends de Dieu qui se comporte selon ce que je mérite et selon ce que je fais. De là me vient l'idée que moi aussi je dois me comporter selon ce que je pense que ce qui est juste et pas ce qui est injuste. Ça peut être moral ou pas moral, esthétique, tout ce qu'on veut. Donc qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Je vais arriver à un principe très simple. À partir du moment où un homme perçoit que ce qui doit lui arriver, il trouve ça naturel que ce soit en réaction d'une action par rapport à l'événement ou par rapport à la nature ou par rapport aux choses. Il trouve ça moral. Il trouve ça juste. Qu'est-ce que ça veut dire trouver ça juste ? Ça veut dire que ça s'insère dans les éléments naturels. Comme il dit, je ne conçois pas que le Créateur joue au dé. Il y a des règles. Et ça, ces règles, c'est la règle de Mida Keneged Mida. Tu vas dans un sens, ça ne va pas aller dans l'autre sens. À partir du moment où j'ai compris ça, je suis obligé maintenant de déterminer quelle est cette idée de Dieu que je me fais. Et c'est ça la mitzvah de la Torah, Valarta Bidrachav. Toi, tu dois aller dans ces voies-là. Parce qu'on a dit l'idée et la conduite, le fait d'aller, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Elles sont tout à fait opposées chez l'homme. L'une, c'est le sens de la justesse et de la justice des choses du monde, la façon dont il étudie les lois des choses. Et l'autre, c'est ses envies et ses désirs. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Donc le début, c'est pas que X veut ressembler à Y, c'est que Y l'a obligé à essayer de lui ressembler. Parce que Y lui a fait comprendre que le monde est articulé justement. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de choses qui ne marchent pas. Trouve la loi, trouve comment ça marche. Ce qu'on appelle la justice. À partir de ce moment-là, je suis obligé moi de savoir qu'est-ce que je mets dans l'idée de Dieu. Appellera ça la conscience, on t'appellera tout ce que vous voulez. Et à partir de ce moment-là, j'ai un chemin. Alors maintenant, on va voir. Il est écrit dans la Gemara que le grand Hallel qui est à la fin des Tehillim, que tout le monde connaît, le grand Hallel, c'est lorsqu'on dit Odou Lachem Kitov Kilolam Chasdo, il y a toute la liste. Pas comme ce matin, Rosh Chodesh, seulement 4. Il y en a 26. La Gemara nous dit, c'est que Neged Esrim Veshishadorot. C'est les 26 générations où Dieu a donné à l'homme gratuitement. Parce que la Torah est venue après les 26 générations. Mot à mot, le langage de la Gemara. Shehakadosh Baruch Hu zan et haolam bechazdo. Dieu a donné par pure bonté, sans que cela se mérite, a donné la possibilité au monde d'évoluer. Après, il y a déjà la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? L'explication la plus simple, elle est celle-ci. Tant que la loi n'est pas divulguée, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas avoir collé à la loi. À quoi il va coller s'il est honnête? Au Dieu que lui a inventé, à l'idée du Dieu que lui s'est fait. Si ça ne marche pas, on ne peut pas lui dire t'es fautif. Donc quoi qu'il fasse, s'il est honnête, même s'il se trompe, on est obligé de lui donner gratuitement. Puisqu'on lui a pas dit ce qu'on veut. Ça, c'est les 26 générations où Dieu a nourri le monde par chesed, gratuit. Ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a plus de chesed. Et on va donner la comparaison suivante. Viens un monsieur chez moi, il me dit, voilà, j'ai pas de travail. Je dis, bon, tu prends 2000 francs pour ce mois-là, tu te SDFises, et puis, j'ai résolu ton problème. C'est du chesed, c'est bien. Quand ça commence à se répéter trop souvent, je me dis que pour lui et pour moi, ça vaut la peine d'investir, et je vais te prêter temps et temps. Tu vas commencer une affaire, et tu me rendras tout doucement, tu vas t'installer. C'est aussi du chesed. Un, c'est le chesed, sans qu'on puisse attendre de l'autre quoi que ce soit. Mais l'autre, c'est du chesed. On pourrait dire la différence entre la vente ou le don et la location. Je t'ai fait la même tova, je t'ai fait la même gentillesse. Seulement, je te permets de te développer. Mais il y a des normes maintenant. Tant que les normes ne sont pas là, le développement est anarchique, il est individuel. Ça veut dire que c'est vrai que l'homme a exactement l'idée de Dieu que lui met dedans. C'est l'homme qui crée Dieu. Sinon, c'est incomplet. Parce qu'à un moment, il ne faut plus créer. Il y a un moment où tu dois prouver. Tu dois montrer que c'est obligatoire que ça marche comme ça. Ça ne peut pas être l'anarchie totale. Ça marche un petit peu l'anarchie. Quand on est jeune, le monde était jeune, 26 générations. On peut être jeune jusqu'à l'âge de 15 ans. Très bien. Il y a un moment où il faut déterminer des lois. Parce que toi-même, tu as déterminé que ça marche selon des lois. Il y en a dit qu'il y a une justesse des choses. Donc c'est que l'anarchie n'est pas possible. Et puisque tu as déterminé qu'il y a une justesse des choses, essaye de la trouver. Comme n'importe qui n'est pas capable de le trouver tout seul, comme Abraham Avinu. Alors Dieu nous a donné la Torah, c'est ça la révélation. Avant la Torah, c'est le chesed gratuit. Prends. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne peux pas te dire, fais ceci, rends-moi cela, on va gérer ça ensemble, puisque je ne t'ai pas donné les moyens de le gérer. C'est à toi de t'inventer ton Dieu. À partir du moment où tu grandis, il faut que tu commences à corriger le tir, selon des normes qui doivent pouvoir être universelles, et selon des lois qui doivent pouvoir être édictées. C'est possible? Alors, de nouveau, ça peut compléter l'idée de justesse ou de justice qu'on avait depuis le début. Mais sans ça, c'est impossible. À moins de poser que tous les hommes sont capables de se dépasser au point de trouver tous ces idées justes. Et tout le monde sait que c'est pas vrai. La plupart de ceux qui ont trouvé ces idées justes, ils ont été mis à mort. Au maximum. Donc, c'est vrai que c'est moi qui crée Dieu. Mais ça, c'est le début. Ça, c'est un enfant. À un moment, le contenu est tout à fait différent. Et ce contenu différent, je suis obligé de le trouver avec des repères. Le repère, c'est la révélation, c'est la Torah. Voilà ton repère. Donc, maintenant, le Mida Keneged Mida, c'est pas simplement que j'ai vu que les choses s'articulaient. C'est que même les choses que je n'ai pas vues s'articuler, je pose qu'elles vont s'articuler de cette façon-là. Et je ne le verrai pas tout de suite, peut-être. À partir de ce moment-là, on va revenir sur l'idée de la prière. Nous, on avait posé ce problème-là. Mida keneged mida. J'ai vu que le bon Dieu joue pas au dé. Je fais quelque chose, il me répond comme ça. Comme ça, il répondra comme ça. C'est normal. Toute la vie est faite comme ça. Toute la nature est faite comme ça. Tu fais telle réaction chimique, voilà l'autre réaction. Il n'y a pas une autre qui va correspondre. Mida kenege mida, toujours. Tu mets plus de telle chose, il y aura plus de telle réaction. Tu mets moins de telle chose, il y aura moins de telle réaction. Tu découvriras la loi. La loi, elle est obligatoire. À partir de ce moment-là, mais qu'est-ce que je viens prier moi? Qu'est-ce que je viens demander? De quoi? On va dire, mais de quoi je me mêle? Là, vient la tefila. La tefila vient casser ça. Pourquoi? Parce que d'abord, je ne suis pas toujours capable de supporter le mida keneged mida. Parce que moi, je ne suis pas une chose de la nature. Moi, je ne suis pas que de la chimie. Je ne suis pas que des réactions. Je ne suis pas qu'un pur esprit où lorsqu'on fait ceci, ça va sortir comme ça. Moi, je sens bien que j'ai un travail à faire pour me cadrer dans ces lois qui ne sont pas du tout un jeu de dés. Il a bien fallu que je me cadre là-dedans. Et je dois faire dire en s'effant, parce que même si j'en ai souvent des idées précises, mais le comportement, c'est tout à fait différent. Là, j'ai besoin de combien? Il y a des éléments dont j'ai besoin. Ah, tu dis, mais peut-être que tu n'en as pas besoin. Ça veut dire qu'on va me condamner à l'immobilisme. S'il n'y avait pas la prière, tout est mida kenegued mida. J'ai pas quelque chose, ben c'est que je ne mérite pas. C'est pour ça que vous verrez que dans les croyances, qui croient que tout marche mida kenegued mida, que ce que le bon Dieu a prévu pour moi, ce sera comme ça. Leur prière, c'est juste une glorification du nom divin. Ce n'est pas une demande. Je m'étais toujours demandé pourquoi la prière des musulmans, elle n'a rien à voir avec notre prière. Tu dis, il est grand, il est fort, il est puissant. Très bien, ça c'est l'introduction. Non, alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? C'est terminé. Oh, c'est shalom, shalom. Pourquoi? T'as rien à demander? T'as pas... Ah non, ça c'est pas la prière. Pourquoi? Parce que tu as placé que tout va mida kenegued mida, donc la prière n'a plus de sens si ce n'est que le fait que tu es petit par rapport au grand qui va toujours te donner exactement la taille que tu mérites. Voilà. Donc il n'y a plus de place pour la prière en tant que demande. Il n'y a même plus de place pour ce qu'il y avait de manière qui shma Hashem et kolita chalonai qui ita osno. Mais t'as vu, il a écouté. C'est pas tout mida kenegued mida, il écoute. Mais chez lui, il écoute rien. Il n'y a rien à écouter, qu'est-ce que j'écoute? Que tu as dit que je suis grand, ok. Il n'y a pas à écouter. Il y a à savoir que tu l'as dit, mais il n'y a pas besoin d'écouter. C'est ça le grand cri de David Améler. D'où est-ce qu'il a pris de ce midrash de la mer Rouge? Il était devant la mer Rouge, le bon Dieu l'a dit. Très bien, t'as prié, merci, ça suffit, au revoir. C'est ce qu'on voulait. Atem Tacharishoum. Voilà. Il y a un temps pour la prière. Maintenant, c'est à moi de répondre. Voilà ce que Dieu leur a dit. Ça veut dire quoi? Un homme doit sentir qu'il n'arrivera à s'en sortir pour trouver son mida keneged mida, pour retrouver ses repères dans ce qu'il pense être juste dans le monde, que s'il s'adresse à Dieu. Tu t'adresses à l'homme, tu te feras toujours avoir. Shav avod Elohim. C'est pas la peine. Pourquoi? Parce que l'autre n'aura jamais l'idée précise absolue dont on a besoin pour savoir ce qui est juste pour toi. Et toi-même, tu ne l'as pas. Ça veut dire que lorsque tu demandes quelque chose à Kadosh Baruch Hu, c'est une suggestion. Mais tu es d'accord que s'il te donne le contraire, il a quand même écouté. C'est-à-dire que la prière, il y a peut-être des choses maintenant qui ne marchent pas sans la prière. Mais ça ne veut pas dire que la prière, elle me donnera la possibilité de tout avoir parce que je le demande. Mais une chose est sûre, je suis écouté. Donc même si on me répond non, c'est bien aussi parce qu'on m'a écouté, on m'a dit non. Ça aussi, ça a besoin de savoir. Chaque fois que l'homme a inventé des faux dieux, ce que la Torah le reproche, c'est pas seulement qu'il soit fait de pierre et de bois, et va et ven, et que c'est faux. C'est que c'est pas la fin, c'est en ça qu'ils sont faux. Et maintenant, on va voir. Qu'est-ce que ça veut dire faux? Dans la Torah, il y a marqué Elohim Acherim, autre. que ça veut dire autre. Autre, c'est ce qu'il a dit Einstein, le jeu de dés. Qu'on décide de faire telle et telle action, telle et telle expérience, tel et tel sacrifice, et que ça influence le bon Dieu à cause d'un mécanisme absurde, ça c'est déjà les dés. C'est pas comme ça. Le monde n'est pas fait comme ça. C'est pas que Dieu a délégué des pouvoirs, et tu te mets bien avec les ministres, tu t'en sortiras avec le roi. Nous, on croit comme ça. On croit que lorsque j'aurai le pouvoir, lorsque j'aurai l'argent, lorsque j'aurai la sympathie des autres, j'ai réussi à bloquer le Mida Keneged Mida, j'ai réussi à annihiler ce qui est juste. On croit que c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle le faux Dieu. Ça veut dire que tu as cru qu'il y avait quelque chose de mécanisme qui n'avait pas de sens. Il suffit d'appuyer sur le bouton et ça marche comme ça. Mais c'est pas du tout ça. À l'intérieur, il faut que ce soit juste. Et toi, tu penses que c'est pas juste, que celui qui a le pouvoir, il est plus, que celui qui a l'argent, il est plus, que celui qui a la sympathie, il est plus, que celui qui a l'intelligence, il est plus. Tu comprends que ça ne sont que des moyens. Mais c'est pas ça qui fait la vie. À partir du moment où tu sers ces dieux-là, ces intervenants, c'est que tu es dans les dés. Tu n'es pas dans le système. Chaque homme sent confusément qu'il y a un système qui marche, qui est juste. Maintenant, on va retrouver notre verset. Le sous-sati berich les paroles. Le verset d'avant, c'était quoi? Imlo tedilach ayafa banashim. Tu ne sais pas quel est le chemin à prendre. Regarde les ancêtres. Regarde quels sont les événements et les lois qui ont été définis dans la Torah. Donc maintenant, on a ce problème-là. Donc c'est toujours action et réaction. Je fais comme avant ma vie, il va m'arriver comme ça. Je fais comme ça, il va m'arriver ça. C'est la théorie d'Einstein. Tu appuies là-dessus, sur ce bouton-là, il y a ce truc-là qui va s'enclencher. C'est ça la vie. Moi, je ne suis pas capable de me gérer comme ça. Parce que ces réactions-là, elles sont des choses que j'arrive à déterminer dans ma tête, mais pas dans ma vie, pas dans mon comportement. Je sens ce qui est juste, mais j'ai besoin de ce qui est injuste. Ça veut dire que j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de moyens, et je n'arriverai jamais à me résoudre à me dire, mais tu sais, puisque la vie elle est juste et elle est normale, ben, ce qui t'arrive c'est bien, tu restes dans ton coin, tout est immobile. C'est pas vrai. Mais le premier verset, il avait tendance à me le faire croire, puisqu'il me dit, tu fais comme c'est marqué, vas-y fais. Ah, fais, il y a ces comportements. Alors quel est le recours? Viens dans la coche, bon, où il sache, le sous-sati, berich veparo. Et est-ce que tu ne sais pas qu'au moment de la mer Rouge, lorsque je suis intervenu avec toute ma force contre Pharaon, Dimitir, je t'ai calmé. Les besoins ont été satisfaits. Tu n'avais plus besoin d'intervenir, Martin Tacharéjoun. Deuxième sens, nous dit Rachid Dimitir, je t'ai montré aux autres. C'est aussi la continuation du premier verset. Je t'ai montré aux autres, ça veut dire, j'ai montré que ça marche la prière. J'ai montré que le clan Israël, ça fonctionne. Donc si tu me poses la question que tu m'as posée au verset d'avant, Imlo te dit la chayaf abanashim, comment est-ce qu'on se comporte? Alors je te dis, voilà les lois, voilà comment on fait les autres. Mais tu vas avoir toujours la même question. Ok, ça marche très bien, mais c'est inhumain. C'est consciencieux, on va dire. Mais c'est pas vivable. Alors on va te dire, mais Dimitri Rayati, je t'ai pas montré que ton truc marche à toi. Pourquoi t'as peur? Avec toute la question, c'était dans la galoute. Comment ça va marcher? Les autres s'en sortent, parce que c'est leur histoire. Mais nous, on est bousculés, comment on va s'en sortir? Mais il t'a dit, Dimitri Rayati, j'ai montré à tout le monde qui tu es. T'as pas besoin de croire que chez toi ça marche pas. Ça marche. Ça, c'est le sens de la prière. Ça veut dire que ce Dieu que je m'invente et vers lequel je prie, on avait dit, mais puisque tu l'inventes, il n'est pas objectif, c'est le tien. Il est tout à fait objectif. Parce qu'il va tout doucement rentrer dans des cadres. Il va tout doucement rentrer dans des lois, rentrer dans une justesse dont je sais pertinemment que ça marche. Donc mon idée est juste. Puisque nous on a dit, quelle est la perception de ce que je pense être juste ou faux? Ce qui marche dans la nature. J'ai vu que ça marchait. J'ai vu que lorsque je fais un sourire à quelqu'un, il me remet un sourire. Il ne va pas me taper dessus. Ça c'est juste, ça marche. Alors puisque ça marche, c'est ça l'idée de Dieu. C'est ça ce que j'ai mis dans le rien. C'est ça ce que j'ai mis comme contenu. Chacun a donc l'idée de Dieu qu'il a corrigé, qu'il va corriger pendant toute sa vie le plus justement possible par rapport aux mitzvot de la Torah. Plus il en accomplira avec justesse et plus les idées viendront justes. Il y a des gens qui pensent que plus on fait des mitzvot, plus on fait avoir. Il y a des gens qui pensent le contraire. Tout dépend des idées qu'on a. C'est vrai que je l'ai inventé, ce Dieu-là. Mais je ne l'ai pas inventé par rapport à mes envies. Je l'ai inventé par rapport à ce que je vois, à ce que je perçois. J'ai mis un contenant dans ce rien. C'est pour ça qu'il était absolument indispensable qu'il n'y ait jamais aucune manifestation physique de Dieu. Et là, on va arriver à un problème. C'est qu'on est toujours obligé d'avoir des comparaisons. Mais on a dit rien, c'est quoi? C'est ce que l'aveugle ne voit pas lorsqu'il ouvre les yeux. Ça, c'est rien. Mais il en reste que j'ai toujours, si ce n'est pas une représentation physique, c'est au moins une sensation de quelque chose que je perçois. Mais ça, c'est pas grave. On a une fois dit, il est écrit à propos de la mer Rouge une phrase dans la Gemara qui est celle-ci. Ra'ata shifra layam mashelora yecheskel ben buzim yamav. Le prophète Ézéchiel, toute la vision qu'il a eue du char céleste, il est de loin, il n'a pas vu ce qu'une petite servante a vu à la mer Rouge, de la manifestation divine. Les commentateurs demandent pourquoi tu parles du pauvre Yecheskel ben Buzi. Le premier qui a une révélation de la présence divine et qui l'a décrite, c'est le prophète Isaïe. La réponse, elle est celle-ci. C'est que c'est le seul qui a dit « Veine Yoshev ala kise, ki demut Adam ?» Voici que j'ai vu, et dans cette vision était assis sur le trône, qui de Moutadam, comme une apparition humaine. Nous, on ne connaît pas la Kabbalah. Qu'est-ce que ça veut dire l'apparition humaine par rapport à la vision de Isaïe, où c'est pas marqué l'apparition humaine. On ne va pas rentrer trop là-dedans parce que on ne connaît pas seulement. Il y a une chose qu'on peut déterminer. C'est que quand on dit apparition humaine, ça veut dire que le prophète Ézéchiel dit « Mais je l'ai reconnu. C'est dans mes idées. Je ne me suis pas trompé. C'est quelque chose que je connais, que je vois. Parce que Kidmout Adam, c'est le seul repère que j'ai, moi, de la vie. » Vous comprenez? Ça, je sais. C'est pour ça qu'il est marqué. Tout ce qu'a pu repérer de la façon la plus proche possible. C'est comme si je reconnais quelqu'un. On est pareil, on se reconnaît. Il a reconnu le bon Dieu, c'est exactement l'idée qu'il avait, lui. Il n'avait pas tort dans son idée. C'est ça ce qui veut dire Kidmout Adam. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui a été créé comme moi. Mais c'est quelqu'un qui me ressemble. Je n'ai pas eu tort quand j'ai dit que ce que je trouvais juste, c'était exactement ça qui était Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez? Une petite servante à la mer Rouge, et on a vu plus que ça. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller plus que ça? C'est que le repère, il est venu de l'extérieur. Ça veut dire que la délivrance d'Égypte, la fin de la délivrance d'Égypte, c'est le seul repère qu'on puisse avoir de Dieu. C'est pour ça que le premier commandement, c'est « Anochi Hashem Elokecha, Asher Otsetira ». Tu veux savoir qui je suis? Regarde comment ça s'est passé. Ce repère-là, c'est le plus clair qu'on ait. Et il est plus clair que tout celui qui pourra imaginer sans repère, comme Yocheskel Ben Buzi, qui arrivera à l'idée la plus exacte, puisqu'il se reconnaît à travers l'image de Dieu. Quand on dit Kidmout Adam, ça veut dire ce que je trouve juste, ce que je trouve exact, je l'ai retrouvé là. Mais ça, c'est ce que toi, tu as trouvé. La révélation, c'est beaucoup plus. Mais ça, c'est une fois dans l'histoire, terminé. Voilà le repère. Ça ne va plus t'arriver que tu aies une idée tellement juste de Dieu qu'il suffit que tu pries. Le bon Dieu t'a dit, bon, ça a été terminé, vous avez terminé de prier, j'ai entendu, tachar les choses, tranquillos, maintenant je fais tout. C'est arrivé une fois dans l'histoire, ça n'arrivera plus.
Vous ne voudrez pas trop repérer un peu
Comment c'est un peu faible? Il dérange. On ne devrait même pas l'avoir, ce repère. Parce qu'il est pour des enfants, des bébés. Puisque dans la nature elle-même, je dois retrouver l'image de Dieu. Abraham a vu, il n'avait pas besoin de ça, il n'avait aucun repère. Et le repère, il dérange. Parce que nous, on est restés bébés à cause de ce repère. On croit, le monde est là pour nous sauver. Qui dit? Le monde est là pour nous aider. Qui dit? Comprenez? Maintenant, on prend une attitude comme un gosse. Alors, le bon Dieu, c'est le père. Mais le bon Dieu, c'est pas le père, c'est pas le papa, c'est pas le gentil. Pourquoi? C'est une idée erronée totalement. Ce moment, on a besoin parce qu'on était des enfants. Si on avait été adulte, on n'aurait pas eu besoin de son père. Non seulement il n'est pas faible, il a dérangé toute l'histoire. Vous comprenez ça? Pire que ça, quand un chrétien vient vous dire « Le bon Dieu va vous sauver », c'est de là que ça vient. Qui t'a dit qu'il va vous sauver? Il ne sauvera rien, rien. Ne compte sur rien. Compte sur toi. Tu sacrifies 1000 générations pour avoir le bonheur après, parce que le bon Dieu va revenir, on va venir. Qui parle de ça? Vous avez entendu parler du Mashiach dans la Torah? Jamais. On ne parle pas de l'homme en bas. On parle de l'homme. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu peux devenir? Quelle est ta loi? Voilà de quoi on parle. Tout ça, ça vient de la sortie d'Égypte. C'est les effets pervers de l'interventionnisme de Dieu. Et le don de la Torah, c'est encore un autre effet pervers. Encore pire que ça. C'est qu'un homme croit que le bon Dieu va lui enseigner le chemin, et de même que les autres ont lu la Torah, mais moi si je me gourre, le bon Dieu me mettra sur le bon chemin, et puis ayez confiance en Dieu et machin. Mais tout ça, c'est des histoires. Voilà, ça veut dire qu'une fois, ça suffit comme un enfant. Une fois, on t'a montré, maintenant roule, marche, tu as les repères. C'est ça que j'ai dit, l'idée qu'un homme a de Dieu, c'est pas celle de la révélation. L'idée qu'un homme a de Dieu, c'est son idée. Et si d'où on a la même idée, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'on ne demande pas la même chose à chacun. Ils ne doivent pas avoir la même idée. Ce qui est pour l'un, pour lui, puisque c'est son Dieu, ce qu'il attend de lui, c'est pas du tout ce qu'il attend de l'autre. Et chaque fois qu'il y a une expérience commune, c'est qu'elle a dévasté les possibilités de chacun. La preuve, c'est que la preuve, c'est que quand le bon Dieu a donné le tas de la loi, ben ils ont été cassés. Il a fallu que ce soit Moshe Rabbeinu donc qu'il fasse tout. C'est quand même une preuve, non? C'est que ça marche pas.
Comment expliquer que devant une telle révélation où Dieu ne s'est jamais autant montré qu'à ce moment-là, les autres peuples n'aient pas eu la même révélation et ne se soient pas dit bon bah.
Ça c'est le choix. Ça c'est ce que le monsieur dit, c'est faible. C'est que.
Non, je ne sais pas que c'est faible, c'est une telle révélation incroyable. Jamais Dieu s'est autant montré qu'à ce moment-là. Comment ça se fait que les autres peuples, à ce moment-là, n'aient pas dit voilà, il y a un Dieu, il est là et.
Peut-être qu'il en dit l'oublié, j'en sais rien. Nous, on ne peut pas refaire l'histoire.
Ils ont assisté à toutes ces preuves de Dieu. Comment ça se fait rien déjà que les Égyptiens ne se soient pas dit à ce moment-là?
Absolument, mais ça.
C'est ce Dieu est le plus puissant.
Ça, si on ne pose pas le libre arbitre, on est fichu. Je peux nier l'évidence. Si je ne peux pas nier l'évidence, on ne peut plus rien me demander. Ça veut dire que je n'ai plus le choix. La preuve qu'on peut nier l'évidence, c'est qu'on a dit qu'il y a deux réponses possibles. Un qui vous dit, je ne crois pas que le bon Dieu a joué au dé. Impossible qu'il y ait un quelque hasard dans quelque événement qui a eu lieu un jour dans l'humanité depuis la création. Et l'autre, il vous dit, l'idée de Dieu, c'est toi qui as inventé ça. En vérité, ça n'existe pas, il n'y a pas de nécessité. Donc, c'est qu'on peut la nier. Allez-y, allez, posez la question. Allez-y. Quel texte? Hein? Non, dites-moi le texte. Ah non, on n'a pas parlé de ça ce soir. On a expliqué le verset d'après, lisez-le. Le Sousati, le Rihve, Paro, Dimitir, Rayati. Le Sousati, on a dit aux forces que j'ai engagées, le Rihve, Paro, contre les chars de Pharaon, Dimitir, il y a deux pshatim, où je t'ai fait taire, où je t'ai montré en exemple, Rayati, ma compagne. C'est bon, vous voyez le rapport?
Non, moi, simplement, ce que je voulais dire, c'est simplement l'idée de la révélation. L'idée de la révélation, c'est la sortie d'Égypte et c'est la mer rouge. Ok? Tout simplement.
C'est la référence de la révélation.
Oui, c'est la référence. Je me demande si cette révélation, elle est à la fois petite et grande. Parce que la libération d'un peuple, une question d'humanité, les peuples se sont libérés. Il n'y a pas eu de peuple qui restait asservi toute leur vie.
Non, non, mais attention, regardez la fin du verset. Anishma Kadavarazé, Anéa Kamou, la Torah témoigne, jamais ça n'arrivera. Avec. C'est jamais arrivé. La preuve, Rebecca, il va y dire, il y avait 500 plaies à chaque plaie.
D'accord.
Annoncées, attention, annoncées par Moshe Rabbeinu, et arrêtées au moment où il arrêtait. Vous avez déjà entendu une histoire comme ça? Si vous avez entendu, c'est que la Torah ment, puisque la Torah prophétise en disant, Anishma Kamou, Imlo Yé Kadavarazé. Jamais ça ne s'est passé, et jamais ça ne se passera, à la sortie d'Égypte. Impossible. La Torah elle le pose. Regardez le verset. Hanishma kamou, haye kadavarazé, hanishma kamou. La karatlo, goy mikerev, goy bematot, ubomoftim. Impossible. On n'a jamais, on verra jamais dans l'histoire un homme qui viendra chez un deuxième, il dit voilà, dans 10 minutes, ça se transforme en sang. On va faire ceci, cela. 10 minutes après, on arrête, on recommence. Tac, tac, tac. Impossible. Toute la Haggadah de Pessah, elle est là. Pour montrer, qu'est-ce que ça veut dire? Yad, la main, 5, etzba, un doigt, combien de plaies par-ci, combien de trucs par-là, le tout prédit, bien forgé, l'un articulé dans l'autre, avec des simanim, impossible, c'est impossible. Puisque c'est ça tout le sens. C'est impossible qu'un peuple se libère, de cette façon-là. Parce que ce qui a marqué Alishma Kamou, c'est que Dieu le libère, Bototomofti. Pas qu'il se libère, bien sûr qu'il se libère, il peut se libérer. Mais que Dieu intervienne dans l'histoire de cette façon-là, ça n'arrivera plus jamais. Alors, si c'est arrivé après, on a une vraie question sur la Torah elle-même. Si quelqu'un arrivait à dire, voilà, j'ai une histoire qui peut faire concurrence à la sortie d'Égypte, on aurait un problème qu'il y a un verset de la Torah qui a été pris en faux. Mais pour l'instant, on n'a jamais entendu d'histoire comme ça. C'est pour ça que c'est le repère, pas plus. Lorsque Dieu dit, Anochi, moi, c'est qui Anochi? Asherot Setir Hamenat Mitzrayim. Ce que tu m'as vu faire, c'est celui à qui te parle maintenant. Voilà. C'est un repère, pas plus. Mais je vous dis, même ce repère-là, c'est de montrer que quoi? Mais le bon Dieu peut tout faire. Mais le bon Dieu peut bouleverser tout. Mais le bon Dieu, il peut... Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu sais, peut-être il suffit d'espérer, demain, tu vas avoir le monde futur. On va te libérer. On va te... C'est rien ce qui se passe ici. Mais tu vas voir. C'est... Voilà ce que ça peut donner. Ça veut dire que toi, ta prière, elle n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour avoir les éléments pour que tu puisses t'insérer dans ce que tu peux être Mida Kenegi, Mida Juste. Parce que nous, notre propre synthèse, il faut bien retenir ça. Comment on peut me dire que d'un côté, c'est tout Mida Kenegi, Mida, et de l'autre côté, qu'on doit tout. Mida Kenegi, Mida, ça veut dire, c'est action-réaction. Il n'y a pas de place à la prière. La différence, c'est qu'une fois, on parle de l'idée que la personne se fait de Dieu et des choses, du bien ou du mal, ou tout ce qu'on veut, dont le seul repère, c'est qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que je trouve qui est juste, qu'est-ce que je trouve qui avance, qu'est-ce que je trouve qui se justifie. Et la façon que j'ai, moi, de me mouvoir là-dedans. La prière, elle me permet de me mouvoir dans ce monde-là où je n'aurai l'air que de quelqu'un qui est balancé avec des réactions, qu'elles soient physiques ou chimiques. C'est ça ce que me permet la prière. C'est ça ce qui est marqué ici. Arrête le sous-sati, brich mes paroles. Tu as ouvert la bouche. Regarde ce que j'ai fait après que tu as ouvert la bouche. Ça veut dire que tu as une solution. C'est pas que, comme on a dit dans le verset d'avant, il y a seulement la loi. Avant, on parlait de la loi, comment faire? On te dit la Torah, elle te permet des repères. Mais moi, c'est pas des repères que je veux, c'est qu'on m'aide. Parce que moi, je ne suis pas le même dans mon comportement que celui qui a l'idée de Dieu. Et dont je sais que Mida Kenegen Mida, et voilà ce qui doit être. Je ne veux pas vivre ce qui doit être. Je voudrais qu'on puisse m'aider. Je voudrais qu'il y ait quelque chose d'humain derrière qui me permette à moi d'avoir un appui. Viens la réponse du verset. Le sous-sati, mes paroles, comment t'as pas vu? Tu veux une référence? Voilà la référence. Mais attention, ne sois pas bébé de croire. Tu sais, la référence, ça va arriver de nouveau. Il y a le sauveur, il y a le machin. Pas du tout. Ça, ça devient une référence personnelle. Ça reste la galoute, puisque la question était, mais la galoute, il n'y a plus de perception de quoi que ce soit. Je n'ai plus de repère, je suis fichu, on te dit. Pas du tout. Tu as deux choses. Tu as la loi. Tu as la façon de faire que tu as hérité de tes ancêtres. Et tu regarderas les générations passées, comme ils ont fait, tu vas faire. Et maintenant, tu vas dire, d'accord, ça c'est lorsque je sais faire, lorsque je dois concevoir l'idée. Mais moi, qui me dit que j'aurai la force de le faire? Deuxième réponse, le sous-sati, t'es pas seul. T'es pas seul. Mais celui qui croit que parce qu'il a marqué le sous-sati, il va de nouveau espérer un machin, c'est pas la peine. On le saura de rien du tout. C'est toi qui construis et il t'arrivera que ce qui te construira, que ce que tu construiras. Ce qu'on peut faire, on va t'aider par ci, on va t'aider par là, on va t'aider individuellement, quelquefois on va aider un petit peu collectivement, un petit sourire, un petit petite aide, mais le bouleversement, c'est terminé. Ça, c'est le repère que tu as. N'aie pas peur, puisque... Maintenant, on comprend pourquoi on doit lire ça, Pessah. Parce que lorsque les Rachamim disent qu'on doit lire une Megillah à chaque fête, c'est qu'elle correspond exactement à la fête. C'est quoi la fête de Pessah? C'est un repère. C'est que le Sousati, le Rich, le Paro, tu as vu ce qui s'est passé. Maintenant, tu sais comment tu peux agir, comment tu peux te comporter, à qui peux-tu te fier. Ça veut dire, comme on a dit David Ameller, le bon Dieu, ce qui est important, c'est pas qu'il te réponde, c'est qu'il t'écoute. C'est ça qui est important. Comment il te répond, de la façon dont il te répond, tu t'en fiches puisqu'il t'écoute maintenant. C'est ça que tu as besoin. Ce dont tu as besoin, c'est ce qu'il t'écoute. Ça, c'est pas marqué à Pessah. Parce que c'est arrivé une fois. C'est le repère. Alors, on te dit ce repère-là, voilà la trace qu'il va laisser dans l'histoire. C'est pour ça qu'à Pessah, un homme doit pouvoir retrouver ce repère-là et se dire, de même qu'il y a la sortie d'Égypte, de même qu'il y a une intervention, de même que c'est pas tout le Nimida Konegemida, et ben moi aussi j'ai une résurgence de ce fait-là. C'est que on m'a créé la prière. C'est ce qui est marqué. Dimitir, Milachon, Douma, Domem. Je t'ai fait taire, ça y est, on t'a répondu. Arrête de pleurer. Donc on peut pleurer. Dimitir Ayati. T'avais raison de parler, ok, on y va. C'est ce qui est marqué dans mon verset. Hachem, Ilachem, Lachem. C'est Dieu qui va lutter pour vous. Vatem Tacharishum, n'entendez-vous. On a entendu.
Tout à l'heure, vous avez dit qu'Einstein, justement, a dit que bon, le monde avait dû être créé par quelqu'un qui ne devait pas jouer au dé. Parce que, justement, tout fonctionnait. Il y a eu des périodes dans la vie et dans, où, justement, il y a des choses où certaines personnes ont pu croire que Dieu jouait au dé, où il n'y avait rien qui fonctionnait au niveau des valeurs de justice, que ce soit la Shoah ou à d'autres niveaux. Vous ne croyez pas qu'à ce moment-là, c'était logique, enfin, qu'il y ait des gens qui puissent dire « mais c'est pas vrai, ça ne fonctionne pas ». Quelqu'un là-haut joue au dé avec des valeurs de justice, etc. Et donc, à ce moment-là, tu posais la question de l'existence réellement d'un Dieu.
Je vais dire. On n'a pas le droit de juger les gens. On n'a pas le droit de juger les gens. Que tout fonctionne, c'est sûr. Il y a des gens qui ne savent pas rester dans l'ignorance de la façon dont ça fonctionne. Ils sont toujours obligés d'interpréter. Moi, c'est pas moi de les juger. Mais c'est normal qu'après, ils commettent des erreurs. C'est exactement celui qui rentre dans une usine qui est tellement perfectionnée que à chaque échelon, on ne sait pas du tout ce que fait l'échelon supérieur. Et puis il rentre dans l'usine, il a tout compris, il dit ça marche pas là-bas. Tout le monde rigole, non? C'est la même chose. J'ai dit voilà, ben là ça n'a pas collé. Là, le monde est la joue au dé. C'est normal qu'on rigole. Ça m'encore, c'est les circonstances tristes et dramatiques. La seule chose qu'on n'a pas le droit de rigoler. Mais plus intelligent que ça, c'est pas. Maintenant, on n'a pas le droit de juger les gens, donc on juge pas les gens. Peut-être que nous, on aurait pensé pire. Donc, là-dessus, on ne peut pas avoir de réaction. Mais que ça ne se justifie pas au niveau de la pensée que chaque fois que j'ai pas de solution et que j'arrive pas à retrouver exactement comment il marche, le Mila Keneged Mida, je dis c'est donc que ça marche pas, c'est bébé. C'est même impossible à concevoir. La preuve, c'est qu'il y a 10 ans, tu ne savais même pas comment marche ce que tu utilises tous les jours. Alors tu veux savoir comment le monde lui marche dans l'histoire? Ça ne veut rien dire. Oui, mais il faut avoir une certaine modestie. Oh là là, attention! Celui qui a tout cerné, il est fichu. Oh oh! Il faut une certaine... Ah, attention! Ah, c'est pire qu'un danger, ça. Attention, oh là! Ça, c'est pire que le danger. Ça, c'est... Ce que j'ai dit, l'idée de Dieu, c'est dans la façon dont nous, nous devons fonctionner. Mais pas dans la façon dont lui, il est obligé de fonctionner. On n'a pas dit qu'on cernait, on cerne ce que nous, on remarque. Au contraire, attention. Là, il y a une erreur qu'il faut faire très attention. À partir du moment où c'est mon idée, je n'ai pas la prétention de dire que c'est une vérité. C'est ma perception. Donc, par définition, je ne peux pas juger. Vous comprenez? Ce que moi, je trouve qui marche, c'est là ce que je mets dans le contenu de ce que j'appelle Dieu. Mais ça ne veut pas dire que je l'ai cerné et qu'il n'y a pas rien d'autre. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, je dis, ben, c'est pas le bon Dieu.
Mais tout à l'heure, vous avez
aucun intérêt.
Avec Ruben et Shimon. Ruben a voulu justement ressembler à Shimon. Et on a bien montré que parce que Shimon, il y avait quelque chose aussi qui émanait, qui donnait envie à Ruben de lui ressembler.
Absolument.
Alors, si on voit ça en
mais on parle de ressemblance. Il faut laisser les proportions. On parle de ressemblance, pas plus. Oh là là, attention. Justement, puisque c'est ce moment où il faut que je sois très modeste, la preuve, il y a des gens qui sont plus intelligents que moi, il y a des gens qui ont une autre vue que moi, donc il faut que je sache comment dire, c'est la mienne, elle n'est pas plus importante que la mienne. C'est sûr que je ne peux pas mesurer aux idées des autres, mais il faut avoir la modestie de savoir que je suis quand même un grain de sable dans les milliards que l'humanité a compté contre elle. Ça, il faut savoir, elle ne compte pas beaucoup, hein. Elle n'est pas très très importante dans les mondes. Il faut garder le... La... Ça, c'est sûr.
Plutôt un problème de supporter plutôt que...
Si on veut. Bon, si on parle de supporter, ça veut dire que c'est déjà des réactions qui n'ont rien à voir avec la pensée. Mais là où ce problème va loin, je vous dis où il va loin. Il est inéluctable qu'on prête à Dieu des comportements qui sont ceux qu'on trouve honorables autour de soi, ou dans les repères qu'on a. C'est pour ça que souvent les enfants se décrivent un Dieu, et c'est pas pour ça qu'on donne, c'est pas seulement à cause de ça, mais c'est aussi pour ça qu'on donne l'image du Père. C'est qu'on est bien obligé d'avoir des repères qui sont les nôtres. On peut pas avoir de repères qui sont pas les nôtres. Nous, on a dit la dernière fois, pourquoi c'est l'image du père et pas celle de la mère?
Justement, quand vous dites que vous pouvez avoir des repères qui ne sont pas des vôtres, vous arrivez à imaginer des choses qui amènent à la croyance. Donc comment vous pouvez avoir une phrase qui, dans ce coup, peut dire ou faire penser le contraire? Quand on dit avoir des repères, on ne peut pas avoir d'autres repères qu'on ne peut pas imaginer, donc un petit peu le palpable, le croire, comment vous pouvez arriver un peu comme... Comme on pourrait dire qu'un monde est accroché à une pensée qui ne se pense pas et qui est en même temps suspendue à une pensée qui se pense.
Voilà, c'est ce qu'on a dit. Attention, c'est pas comment je peux dire. C'est comme ça qu'on doit dire. C'est que je ne peux imaginer que ce que je perçois. Moi, j'ai une certaine idée de ce qui marche, on m'a dit. C'est la seule chose que je peux. Ce qu'on a défini, voilà, tu es dans le rien. Tu donnes un contenu à ce rien. Quel contenu peux-tu donner? Ce qui est exact, ce qui est juste, ce que tu penses marche. Alors attention.
On
ne
pourrait pas croire si on ne pouvait pas imaginer plus qu'on ne peut imaginer. On ne pourrait pas croire, c'est impossible. Parce que c'est la force de notre imagination qui peut nous faire croire.
D'accord, attention. Il ne faut pas mélanger deux choses. Je ne parle pas maintenant de la croyance qui n'est pas un problème juif. Croire en Dieu ou non, ce n'est pas mon problème, puisque Dieu s'est révélé. On ne parle pas de croire en Dieu du tout. On parle du contenu qu'on donne, à qui on s'adresse quand on parle de Dieu. Moi, je ne parle pas du tout du problème de la croyance.
À partir du moment où vous dites, je n'ai pas besoin de croire puisque Dieu s'est révélé, croire en Dieu, vous croyez.
Ok, d'accord. Donc pour moi, c'est un problème qui est résolu. Il ne dépend pas de mon imagination. Il dépend d'un écrit. Il dépend d'un héritage. Il dépend d'une histoire. Donc maintenant, je ne suis pas en train de traiter ce problème-là. Le problème de la croyance en Dieu, il est totalement différent. Moi, je suis en train de savoir maintenant quel est le contenu que je donne. On n'a pas commencé. Comment je définis l'idée de Dieu? Maintenant, celui qui ne la définit pas, peut-être que c'est son histoire. Peut-être que je ne suis même pas obligé de lui prouver. Peut-être que ça n'a pas d'intérêt. Peut-être qu'il y a des gens qui ne doivent pas croire en Dieu. J'en sais rien. Ici, on n'est pas. Maintenant, mon problème n'est pas de savoir exactement comment faire pour croire en Dieu et pourquoi ceux qui ne croient pas. Ce n'est pas ça mon problème maintenant. Mon problème, c'est de savoir quel est le contenu. Tu t'adresses à Dieu, c'est qui? Quoi? Tu attends quoi? Quel contenu tu mets là-dedans? Alors, je dis, ça, c'est ce qui a marqué dans le verset. Chaque fois, Dieu apparaît selon ce que toi, tu penses avoir besoin. En tant que complément du Mida Keneged Mida. Mais le Mida Keneged Mida, c'est toi qui l'imagines. Tes besoins, c'est aussi toi qui les imagines. Qu'il est là pour satisfaire tes besoins, qu'il est gentil, qu'il est... Tout ça, c'est toi qui l'imagines. Mais ça, c'est après avoir cru en Dieu. Maintenant, je ne veux pas parler de cette histoire de croire en Dieu ou non. C'est pas... Nous, on n'a pas ce problème-là, puisqu'on parle à une référence, c'est Dieu qui s'adresse à l'homme. Donc ici, il n'est pas en train de nous barater de croire en lui. Donc, maintenant, ça, c'est pas mon problème. Mon problème, il est autre. Mon problème, il est que... C'est vrai que c'est moi qui ai l'idée de Dieu. Et je l'invente. Alors j'ai non seulement, ça doit être comme ça, mais la Torah peut me corriger la justesse des choses tout doucement. Le fait que j'acquière une nouvelle expérience, une nouvelle vie, un nouveau sens des choses, ça peut me rapprocher d'une idée dont, si elle va dans le sens de la loi, c'est qu'elle va dans le sens de ce qui est juste, et de ce qui marche, et c'est comme ça que j'arrive, moi, à me repérer. Mais attention, à partir du moment où je dis que c'est moi qui l'imaginais, je suis quand même obligé de faire comme lui. Parce que je veux quand même lui ressembler. Donc j'ai imaginé quelqu'un, mais je veux lui ressembler. C'est qu'on a dit qu'il y a une différence entre l'idée et les possibilités que j'ai. C'est là où la prière intervient. La prière, c'est une demande. Une demande à l'aide, une demande de secours, une demande de choses qui fait que je puisse arriver à mon idée. Lorsque je demande la santé au bon Dieu, c'est pas pour m'amuser. C'est pour pouvoir faire ce qu'il me demande de faire. Ça veut dire que le but est clair, c'est les moyens que je n'ai pas. Et lorsque je demande la santé bien que je l'ai, c'est pour dire que je veux la santé pour l'avoir demandé, pas pour l'avoir eu accidentellement. Je ne veux pas, moi, qu'on me donne la santé parce que c'est la règle et qu'au XXe siècle, la mortalité, ça ne m'intéresse pas, cette santé-là. Ce qui m'intéresse, c'est la santé qu'on me donne pour faire quelque chose. Moi, je ne veux pas du miracle et du. C'est ça, tout le sens de la prière. C'est pour ça que les Rahamim nous demandent de prier tous les jours pour des choses que tu as. Parce que tu dois les avoir, parce que tu les penses nécessaires pour un certain but auquel toi tu veux ressembler, auquel toi tu veux aller. Mais pas parce que le bon Dieu a décidé que ça va être comme ça, tac, tac, tac. C'est pas intéressant ça. Laisse-moi, moi, mettre le contenu. Mais d'un autre côté, je suis quand même obligé, moi, lorsque je m'adresse à Dieu, de penser qu'il va exaucer ma prière. Donc, tu penses que cette demande est légitime. Celui à côté, il peut penser que pas du tout. Ça, c'est une chose que je demande pas. Ça m'intéresse. Ah, on n'a pas le même bon Dieu. Toi, quand tu as besoin de ça, tu t'adresses à lui, et moi, quand j'ai besoin de toi, tu me dis c'est nul. Alors j'ai dit oui, ça doit être comme ça. C'est en ça que la prière, elle est personnelle. C'est en ça que la avoda, la façon de se diriger dans sa vie par rapport à ce que Dieu demande, elle est différente pour chacun. Et c'est normal qu'elle soit différente pour chacun. C'est pour ça que j'ai dit, il faut faire très attention. Parce que, à partir de quand un enfant commence à être indépendant, c'est à partir du moment où il a une idée de Dieu qui est différente de celle que nous croyons qu'il a. Et là commencent les grands problèmes. Ça veut dire que, comme ce n'est pas mes enfants, c'est des autres, je coupe court. Pourquoi ? Tu fais de ta vie ce que tu veux, je fais de ma vie ce que je veux. Mais voilà que j'ai pris un enfant, je l'ai éduqué, je me suis identifié à Dieu pour lui, c'est obligatoire. Tout son entourage l'a fait, et à un moment, on n'a plus du tout la même idée. À son Dieu, à lui, ils ne lui ont pas ça du tout. Le mien me demande d'avoir un bon business, de rentrer alors à la maison. Le ciel lui demande de ne pas avoir de business du tout et de surtout de pas avoir une maison. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là que commence le problème. C'est que nous ne nous rendons pas compte dans ce que nous avons de plus proche que non seulement on a donné le contenant, ça veut dire que les fausses idées qu'il aura, elles viennent de moi. Ce que lui pensera qui est juste et injuste, c'est moi qui lui aurais donné. Ce que lui pensera qui est nécessaire et pas, c'est moi qui lui aurais donné. Donc non seulement je dois faire attention pour qu'il ait une idée le plus exact possible, pour pas qu'il soit obligé de refaire la moitié de sa vie en sens contraire pour corriger les bêtises, mais c'est qu'à un moment, je dois lui permettre de passer à une autre idée. Et je dois l'amener à découvrir quelle est son idée. Et ça vient très tôt. Et c'est pour ça qu'on est très surpris. Et qu'on ne se reconnaît plus dans quelqu'un, mais il n'a pas les mêmes valeurs que moi. Mais d'où il a pris ça? Et deux enfants, éduqués de la même façon. Au contraire. Pourquoi? Parce que on établit une relation avec ce qu'on pense être juste ou faux, selon ses propres expériences et sa propre sensibilité, qui n'a aucun rapport avec l'autre. Donc chacun a perçu autrement. Le rôle des parents, et c'est là où on est obligé de donner, c'est que je ne donne pas d'idées fausses. À partir de mon jeu, tu sais, ce qu'on pense et ce qu'on fait, c'est deux choses différentes. Ce qu'on dit et ce qu'on truc, c'est deux choses différentes. À partir du moment où je lui montre que je vais détruire le besoin de lui de qu'il a. Ça, j'ai pas le droit de le faire. Donc, je dois accepter qu'en tant que père, c'est pour ça que l'on avait dit le père et pas la mère, qu'on dit avinu malkinu, et pas imenu malkinu. Pas parce que la Torah est misogyne, c'est parce que le père, c'est celui qui se soucie le moins du bonheur présent et physique de l'enfant. Dans le couple, dans la nature, il n'a pas été fait pour ça. Il a été fait pour se soucier de l'avenir. De l'avenir, même peut-être même pas dans ce monde, de l'avenir plus loin encore. Alors que la mère, elle est là, et sa nature est de pouvoir être celui sur lequel l'enfant s'appuie au moment où ça ne va pas. Ce n'est pas le projet final. Un père, on sent qu'il a un projet final. Un père, lorsque son fils ne fait pas et n'a pas les mêmes valeurs que lui, il est capable de le haïr absolument, une merde. Parce que ce n'est pas son problème. Elle est d'accord de lui laisser sa personnalité, parce qu'elle ne lui a pas indiqué de personnalité. Elle est là pour qu'il vive bien. Et même un rachat, il peut bien vivre. Et même quelqu'un qu'on n'estime pas, on lui donne le droit de bien vivre. Et on ne se sent pas le droit d'aller à l'encontre de quelque chose qu'on n'est pas là pour surveiller. C'est pour ça qu'on dit « Avez-nous ». Le père, ça ne le dérange pas de battre et de frapper, de tout ce qu'on veut. Pourquoi ? Parce qu'il va se dire « Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le devenir. » Le bonheur là, va te faire calmer chez la maman. Ce n'est pas son souci. C'est en ça que l'idée du père, elle est nécessaire pour arriver à l'idée de Dieu. Et que tout ce que je vais produire comme fausseté, et comme chaque fois que je vais montrer qu'un système vicié peut marcher aussi, chaque fois que je vais montrer qu'un système n'est pas honnête, qu'un système ne va pas jusqu'au bout, que le système n'est pas à 100%, et bien lui aussi il aura l'idée d'un bon Dieu qui n'est pas à 100%. Et de là viennent très souvent les idées que quoi ? C'est que la prière, elle a cassé tout le mida kenegel mida. Et j'en dis, mais avec le bon Dieu, on s'arrange. Donc le bon Dieu, c'est vraiment la marque de gruyère que tu manges qui l'intéresse. Arrête. Il a passé ses soucis. C'est-à-dire quoi ? Pourquoi la rigueur ? Pourquoi faire attention aux petites choses ? Un type s'est crevé pendant 20 ans, l'autre il n'a rien fait. Égalité, pourquoi pas ? Ce vice-là, j'ai dit même pire que ça. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent avec une idée de non-interventionnisme. Parce que les enfants ont un sens inné de la justice. Pourquoi ? Parce qu'ils sont toujours les premiers victimes. Alors, ils ont un sens tellement inné de la justice que tout ce qui n'est pas juste, ça les choque profondément. Alors c'est difficile de montrer quelque chose qui n'est pas juste et que ça ne les choque pas. Alors il y a une parade. Te mêle pas de ça. Te mêle pas de ça. T'es pas obligé d'assumer tous les problèmes du monde. T'es pas obligé. Ça c'est le discours classique du parent à l'adolescent. Mais l'idéal c'est bien, mais tu sais, il y a la vie. Mais tu sais, c'est pas comme ça. C'est-à-dire quoi ? On est en train de casser l'idée du Mina Kenegalida. Et plus on a cassé cette idée, moins il aura besoin de la prière aussi. Parce qu'il n'a plus besoin d'aide, parce que de toute façon, le bon Dieu, il ramasse tout ce qui ne va pas et tout le monde est égaux à la fin. Un, il s'est crevé, un, il a fait, l'autre, il n'a rien fait, égal. Ça veut dire que quoi ? En cassant l'idée de la justesse et de la justice des choses, on a même cassé l'idée de la prière, parce qu'on n'en a plus besoin. J'ai plus besoin du bon Dieu. Parce que la vie est faite de cette façon, de façon, t'as vu, l'autre, il n'a rien fait, il est arrivé. Pourquoi tu te crèves ? Pourquoi tu te soucies de machin ? Pourquoi t'es heureux ? Comprenez ? Ça veut dire que je peux tout casser chez un enfant parce que comme le peuple juif était un enfant et on a eu besoin de 26 générations dans le monde, que le monde lui donne tout gratuit avant de pouvoir oser donner une loi. Parce que justement, parce qu'on n'a pas de compte à rendre et que je n'ai pas demandé de venir au monde et qu'on me doit et que ceci et que cela, ce que l'enfant pense. On a été obligé d'attendre 26 générations, il fallait donner gratuit. Après, vient une loi. Mais il faut que la loi, elle puisse venir propre. Parce que si l'anarchie a produit qu'on n'est plus perceptif de la loi, on est fichu. Et c'est là où on est obligé souvent de faire toute sa vie une démarche pour retrouver une honnêteté, retrouver une propreté. J'ai entendu, moi, de beaucoup de psy, je ne veux pas dire plus psychanalyste que psychiatre, que énormément de problèmes viennent du fait que on a habitué les gens à ne pas être clairs dans leur démarche. Alors ils enfouissent. Et puis comme on leur a dit toujours que de toute façon, il y a des choses dont on ne parle pas, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de clarifier. On fait le contraire de ce qu'on dit, on fait le contraire de ce qu'on pense, on est méchant parce qu'on devrait être gentil. Alors, on enfouit les choses. On ne va pas à chaque fois dire, mais papa t'attend, mais maman t'attend, et la vie n'est pas bien, et le monde est horrible. Alors on habitue à refus. On habitue même les enfants à regarder devant la télé des crimes, et qui n'aient même plus le droit de dire que c'est injuste ou c'est pas bien. Parce que tu déranges le repas, et dis-moi de quoi tu parles. Mais un enfant, il devrait pleurer, il devrait crier. On habitue à dire, laisse tomber, c'est pas ton affaire, toi tu regardes. Alors on habitue les gens à enfouir, à enfuir, à enfuir. Et à la fin, ils se rendent compte, ils sont qui ? Ils sont rien. Ils n'ont qu'une personnalité. Ils n'ont aucune perception exacte des choses. Ils ont des repères qui sont tout faux. Et ils n'arrivent pas à émerger avec un système clair. Dès que quelqu'un peut émerger avec un système clair, ça ne veut pas dire qu'il est guéri, mais ça veut dire qu'il a des repères qui sont assez exacts
pour qu'il puisse se guérir. Mais s'il n'a pas ce replay, parce qu'il a toujours tout enfoui, il est plein d'une multitude de choses qui font qu'il ne va pas oser exprimer ça, parce qu'il a honte de ça. Il ne va pas oser exprimer ça, il a honte de ça. Alors il ne peut pas parler de la famille, il ne peut pas parler des amis, il ne peut pas parler de la société, hein. Et on ne parle plus de rien, et puis le type, il s'en va. Ça commence à devenir un schéma classique. Et pourquoi? Parce qu'on vous dit, mais un système, ce qui est juste, c'est toi qui veux dire ce qui est juste, qui dit ce qui est juste. Pourquoi on va légiférer à la majorité? C'est pas grave. La démocratie, ça existe. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, l'idée de justice même, elle est viciée. Elle est viciée chez les gens. Donc ils n'ont plus de repères. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent par rapport aux événements et ils naviguent. La prière, elle est faite pour se confronter à ce genre de problème-là. Mais il faut d'abord avoir la conscience claire de ça marche mieux qu'un égénie. Le monde, il a fait tout avec mesure. Il n'y a rien qui cloche. Si on t'en dit que le monde n'est pas juste, c'est l'homme qui n'est pas juste. Mais chez le bon Dieu, ça ne cloche pas. Cette idée-là, elle doit être claire. On va jusqu'au bout. Pas le type qui dit, tu sais, viens, on fait la moitié de la mine, ça suffit. Pour un adulte, ça suffit. Mais pour l'enfant, c'est un crime. Parce qu'on lui a cassé le repère. Alors, il n'y a rien qui est juste, il n'y a rien qui marche. Le professeur à l'école, il dit, c'est pas grave. Lui, il a 20 parce qu'il a bien travaillé, et lui, il a 20 de consolation. C'est comme ça que les gens trouvent qu'il n'y a plus besoin de justesse dans les choses. Il n'y a plus besoin de justice dans les choses. On peut avoir le 20 de consolation, mais après, on oublie que l'un, c'est parce qu'il a travaillé l'autre. On a tous les deux 20, comment? T'as oublié qu'on a tous les deux 20? Mais c'est pas possible. Le monde n'a pas été fait comme ça. Un mètre et un mètre 50, on n'arrive jamais à leur donner la même mesure. Comment vous arrivez-vous dans la vie à donner la même mesure aux choses? C'est donc que même cette idée-là, elle n'existe plus. Alors pourquoi tu as besoin de la prière? À partir du moment où un homme prie, c'est qu'il est saint. Saint, ça veut dire saint d'esprit. Il a un repère qui est exact. Maintenant, il va falloir lui apprendre. Et c'est pour ça que la Gemara dans traité de Brachot, elle est pleine de ceci. Il ne faut pas trop prier. Il ne faut pas trop espérer la prière. Parce qu'à la fin, on se met aussi à la place du bon Dieu. On n'est plus seulement celui qui demande. On est même, mais si j'étais le bon Dieu, j'aurais répondu comme ça. Comme madame a dit tout à l'heure, donc c'est que le bon Dieu n'est pas là, puisque moi j'aurais répondu comme ça. Ah, donc tout ce qui n'est pas toi, ça n'existe pas. Ok. C'est sûr que c'est difficile. Rachid, encore plus, lorsque la grande elle dit, c'est cacher la lèvre, c'est mauvais pour les cardiaques de trop prier. Rachid dit pourquoi? Parce que il a tellement bien prié, il espère tellement, il a tellement contact avec le bon Dieu, qu'après quand on lui répond non, il est effondré, le gars. Il faut garder les distances. Il faut garder les repères normaux. C'est que, même si le créateur ne joue pas au dé, c'est quand même le créateur. Et que moi, je n'ai pas la science infuse, et que je vois une toute petite partie de l'usine. Mais je n'ai évidemment pas accès à des choses, d'ailleurs, dans lesquelles j'aurai accès dans 10 ans ou dans 20 ans. Exactement la même chose que dans la technologie. Tu comprends bien que tu comprends quelque chose qu'avant, tu n'as pas compris. C'est pas grave. Tu arrives à te mouvoir d'une autre façon. Mais c'était aussi juste. C'était pas faux. C'était juste selon ces repères-là. Alors là aussi, on doit essayer de trouver d'une façon qui soit juste par rapport aux repères. Mais, et là où on peut beaucoup casser, c'est comme ça. C'est-à-dire, tout le monde est égaux, démocratie. C'est ça qui fait qu'on casse les gens. À partir de ce moment-là, ils perdent le repère, ils perdent le besoin de prier, ils perdent toute assistance possible, puisque ça devient le tout bon, tout bien, tout hasard, tout n'importe comment. Et à ce moment-là, on est perdu. Donc si on veut résumer, ça ce qu'il y a marqué ici. Le sous-sati brif les parents. Kalosh Borolé, tu as vu que je suis sorti en force contre Pharaon. Dimitir, tu t'es tué à ce moment-là parce qu'il fallait te taire. Parce que la prière, c'est une chose, mais il y a une réponse. Voilà le système. À partir de ce moment-là, donc d'abord on a défini le système de la loi. Tu as un repère, le repère il est exact. Change pas de repère, invente pas des lois, il n'y a pas de démocratie. Tu reprends les repères qui sont exacts. La Torah elle est venue, il y a une révélation, il y a des repères. Maintenant, la deuxième chose, ne crois pas que ta vie, elle est fichue parce que tu es fermé par les repères. Il n'y a aucun développement possible et que tu vas toujours te faire canoniser parce que chaque fois qu'un sera plus fort que toi, tu diras toujours, ben, c'était écrit. Non, il y a un repère. Dimiti Rayati. Tu as prié et j'ai réagi. C'est bon. Oui.
Est-ce que l'étincelle qu'il y a en soi,
le 6-7 qui permet justement d'avoir cette demande dans la prière.
Je vais vous dire, il faut déterminer les mots parce que c'est pas évident, ni étincelle, ni demande, ni prière. Alors attendez. Regardez, on va aller plus loin, je crois que vous allez comprendre. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on puisse greffer un cerveau ? Aujourd'hui, on le conçoit tout à fait. On peut greffer un cœur. On comprend bien que c'est pas parce qu'il y a le cœur de l'autre qu'il réagit comme l'autre. Mais est-ce que ça peut être du cerveau? Pour l'instant, on ne le conçoit pas. Ça veut dire que si quelqu'un lui greffe un cerveau, c'est le propriétaire du cerveau qui est propriétaire de la greffe. Comme ça, on le conçoit. Ok. Parce qu'on n'a pas de moyens physiques pour changer les informations du cerveau sans changer le cerveau. On est d'accord? Est-ce qu'on est obligé de dire qu'on n'aura jamais ces moyens-là? Ou alors non, un jour, qu'est-ce qu'on fera? On va vous déprogrammer tous vos cerveaux et on va le reprogrammer exactement tel qu'il est, neurone après neurone, dans un autre corps. Et puis vous retrouverez avec le cerveau d'un autre. Je ne sais pas. Pas dire qu'on arrive pas, on arrive où, on ne sait pas. Mais si je pose la question qui est celle-ci, une fois que le cerveau ne marche plus, toutes les informations qu'il y avait à l'intérieur, ce que je suis moi, tout ce que je suis devenu dans ma vie, ce que l'on a dit une fois, c'est quoi l'âme? C'est le résultant de toute l'aventure qui a existé avec la volonté de vivre que m'a donné le bon Dieu et le corps qu'il m'a donné. Ce que j'ai construit, c'est moi. Alors nous, on va l'appeler ça des informations. Où ça part lorsqu'il n'y a plus de cerveau? Alors on peut imaginer que c'est greffé dans une autre mémoire qui est universelle. Ça veut dire que le monde il a réussi cette transplantation de la mémoire en laissant le cerveau là où il est. Il a pu prendre les informations et les remettre autre part. Dans la Kabbalah, ça s'appelle ce qu'on marque sur toutes les matzevot. Tzoror Achayim. Tzoror Achayim veut dire le faisceau de la vie. T'as pas besoin du cerveau pour être. Le monde, il n'a pas besoin du physique pour te maintenir. Vous comprenez? Lui, il a une super mémoire avec toutes les informations de chacun. Et puis, tu peux vivre dans cette mémoire puisque tu n'as plus les ustensiles physiques. Et bien, tu te sers de la mémoire du bon Dieu. Ça s'appelle Tzoror Achayim. Comme ça c'est écrit dans les Tikkun Ezor. Tzoror Achayim, ça veut dire tout ce qu'on t'a enlevé, on le replace dans le Tzoror, le faisceau de la vie. Ne me demandez pas ce que c'est le faisceau de la vie, je ne sais pas. C'est le super ordinateur, il est tellement miniaturisé qu'il n'y a plus d'ordinateur. C'est que quoi? Il y a quelqu'un qui a imaginé la puce. Il n'avait pas besoin de la créer, et il lui a donné toutes les informations dans cette puce. Et puisqu'il a l'imagination de la puce, ben elle fonctionne. C'est ça ce que le bon Dieu fait, et on appelle ça Tzoror Achayim, le faisceau.